Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. On va évoquer la réforme de l'assurance chômage. On a désormais tous les détails qui feront qu'on passera de période rouge à période verte. C'est le pivot, c'est un taux de chômage à 9%, mais avec également une évolution forte. Une hausse par exemple de 0,8 points ou plus de 0,8 points peut faire basculer en période rouge, la période où il y a le maximum d'indemnisation, c'est-à-dire 24 mois pour celui qui a moins de 53 ans et qui a tous ses droits. Voilà, c'est une bien sage réforme du chômage, écrit ce matin l'éditorial des Échos. C'est un plus qu'un appel du FMI envers la France. Le FMI considère que rien ne va au niveau des finances publiques, de la dette et du déficit. La France, c'est le seul pays qui fait monter sa dette, nous dit le Fonds monétaire international. Vous devez réformer l'assurance chômage, réformer les retraites, réduire les niches fiscales, baisser les dépenses. Enfin voilà, les choses sont très claires. C'est par le menu comment réformer le pays pour essayer de retrouver une dynamique de désendettement. On évoquera les retraites d'ailleurs avec la une d'Alternatives économiques. Retraite, pourquoi il est absurde de reporter l'âge de départ, nous dit la une du numéro de novembre. Emmanuel Macron dîne ce soir avec les industriels. Il veut tout simplement les inciter à ne pas aller chercher un kilowattheure moins cher hors de France. Il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui commencent à se poser très sérieusement des questions, notamment pour les plus consommatrices d'énergie. Et puis on verra si c'est bien aussi simple que prévu le fameux guichet pour les entreprises en 2023 lié à l'explosion des prix de l'énergie, parce que Bercy nous dit qu'ils ont tout simplifié et que désormais, les inquiétudes qui avaient été celles des industriels sont normalement apaisées. Isabelle Job-Basile, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, directrice des études économiques de Crédit Agricole SA. Christian Chavagneux, bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste à Alternatives économiques, vous avez publié les plus belles histoires de l'escroquerie du collier de la reine à la ferme Madoff au seuil et donc la une du numéro de novembre qu'on va voir s'afficher à l'écran. Retraite, pourquoi il est absurde de reporter l'âge de départ? Je vous rends la parole dans un instant. Et Laurent Vansky, bonjour.
Bonjour à tous.
Directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité. Ah non, il faut dire autre chose.
Membre du comité stratégique d'Espérance Banlieue.
Membre du comité stratégique d'Espérance Banlieue. Je l'avais écrit à la main la fois dernière et j'ai oublié de corriger. Espérance Banlieue, vous le savez, c'est ce réseau d'écoles qui a été initié il y a maintenant 10 ans.
Absolument.
Par des anciens, pour la plupart, des anciens du privé.
Des entrepreneurs.
Voilà. Et il y a combien d'écoles aujourd'hui ?
Nous espérons bientôt de 18.
D'accord. La semaine particulière d'Alternatives économiques, Christian Chavagneux.
Oui, c'est nos journées de l'économie autrement. Il y a le printemps de l'économie à Paris, il y a les GECO à Lyon, il y a la rencontre d'Aix. Il y a en fait 4 grandes réunions cette semaine. C'est les journées de l'économie autrement. On va avoir Philippe Martinez pour débattre des retraites, Valérie Masson-Delmotte pour débattre du climat. On va avoir Lucas Chancel sur les inégalités. On va avoir quelqu'un que les gens d'ici connaissent très bien, parce que c'est Xavier Fontanel, ancien patron d'Essilor, mais qui va venir débattre des mondialisations. Franchement, on a un super programme. Allez voir sur le site, les journées de l'économie autrement, c'est à Dijon, c'est 2000 personnes par an qui viennent, c'est quand même un bel événement, on est content de l'organiser cette semaine.
Donc c'est cette semaine, les dates précises?
C'est vendredi et samedi.
Vendredi et samedi, et accès ouvert.
Accès ouvert, tout à fait, bon. Et quelques grandes, pour les vedettes en quelque sorte, ce sera retransmis sur YouTube pour les gens qui ne pourraient pas se déplacer à Dijon.
D'accord, et le site, c'est un site dédié ou c'est le site d'Alter Eco?
Journée de l'économie autrement.
Journée de l'économie autrement à Dijon.
Tout à fait.
À la fin de cette semaine, organisée donc par Alternatives économiques. Je voudrais prendre des nouvelles de votre facture d'énergie 2023. On a eu celle de Sylvain Aurébi qui est passée pour les boutiques simplement de 150 000 euros en 2022 à 680 000 euros en 2023. Hervor est une entreprise industrielle. Et alors ? Et alors, ça donne quoi ?
Bah écoutez, l'échéance se rapproche puisque
c'est fin décembre, je crois.
Oui, c'est ça, le 31 décembre à minuit 1. Donc je ne sais toujours pas ce qui va se passer. Pourquoi ? Parce que je rappelle que nous avons été sollicités par notre fournisseur actuel d'énergie, donc gaz et électricité. On a commencé à fin septembre avec une proposition de renouvellement de contrat à x50. Donc là maintenant, si vous voulez, avec négociation, le fait de pouvoir alerter les pouvoirs publics, de pouvoir faire d'en parler dans les médias, etc. Donc là maintenant, on arrive entre, je dirais, x18 et x15, ce qui est quand même complètement délirant. On ne sait toujours pas ce qui va se passer, et le dispositif d'aide qui a été mis en place, je veux dire, il y a un gigantesque trou dans la raquette. Alors je ne vais pas passer une demi-heure à l'expliquer, mais très simplement.
Je rappelle juste une chose, Laurent. Donc Bercy avait mis en place un premier guichet pour les entreprises, beaucoup trop complexe, avec des conditions d'accès imbitable, disons les choses. Bon, en réalité, personne pratiquement n'a eu recours à ce guichet. Là, ils nous disent, ça y est, on a tout nettoyé, tout facilité, tout simplifié. Tu vas sur le site de la DGFiP, tu remplis ton petit dossier. Si globalement, tu as une facture d'énergie qui dépasse 3% de ton chiffre d'affaires, tu as de grandes chances d'être éligible à ces dispositifs qui ont plusieurs paliers d'indemnité, le premier étant à 4 millions d'euros. Alors, je me dis que vous devez être dans les clous.
Alors justement, non. On n'est pas, et je pense que c'est le cas d'énormément de PME. C'est-à-dire qu'en clair, le dispositif qui est en place, et encore une fois, je ne revendique pas, je ne critique pas, soit vous êtes tout petit, c'est-à-dire qu'en clair, vous avez un abonnement électrique qui est digne d'un gros particulier, soit vous êtes très gros. Les fameux 3% que vous citez, en clair, il faut qu'en 2021, la facture représente 3% de votre chiffre d'affaires. Mais en 2021, pour la plupart des entreprises comme la mienne, il n'y avait pas de problème, puisque nous avons des contrats à terme. Donc c'est soit un an, soit trois ans. Donc je dirais, nous en 21, on n'avait pas de souci. On avait donc une facture qui représentait moins de 3%. Le seul problème, c'est qu'avec les taux complètement délirants qu'on nous propose, à partir du 1er janvier à minuit une, là on va avoir une facture énergétique qui va exploser, et là on va très largement dépasser les 3%. Mais en clair, on ne satisfait pas les critères.
Donc, au 1er janvier, vous satisfaisiez les critères.
Mais non, puisque c'est 3%
de 21. Oui, mais ça va avancer. Ah bah, de 22.
Je ne sais pas si ça va avancer, mais en clair,
c'est le principe.
La question qui m'est posée, c'est de savoir si oui ou non on a de la visibilité sur notre facture énergétique. La réponse est non. Deuxièmement, je pense que, et on va en parler dans cette émission, l'État est surendetté. Et je sais que beaucoup de gens croient à l'argent magique. Moi, je n'y crois pas. Et donc, on ne peut pas, si vous voulez, tout mettre sur le tableau de l'État. Et donc, moi, aujourd'hui, je dois vous dire que je ne sais pas ce qui va se passer pour nous, mais comme des centaines de milliers d'entreprises, et nous ne pouvons pas aujourd'hui augmenter nos prix de vente dans des proportions identiques. Donc, nous espérons que d'ici un mois, puisque globalement la France va commencer à s'arrêter de travailler à partir du 15-20 décembre, c'est la trêve des confiseurs, nous espérons qu'il y aura soit des conditions de marché, soit des systèmes qui vont nous permettre de pouvoir avoir une facture énergétique qui soit abordable. Et aujourd'hui, ce qui est complètement délirant, c'est que si on nous fait une proposition à x2, ce qui est déjà énorme dans l'absolu, parce que nos prix de vente ne seront pas multipliés par deux, on va considérer que c'est un bon prix.
Vous avez l'assurance que vous ne serez pas éligible à ce guichet en 2023.
À ce stade.
À ce stade.
Mais bon, ça change tout le temps. C'est pour ça que
il est ouvert depuis hier.
Oui, mais nous avons choisi, samedi, comme beaucoup d'entreprises, depuis maintenant fin septembre, qu'on sait à peu près à quelle sauce on va être mangé. C'est pour ça qu'on a décidé de jouer à la montre. Parce que ça change tout le temps. Donc moi, j'espère que d'ici un mois, il va y avoir des révisions, des modifications. Mais je sais que le 15-20 décembre, quoi qu'il arrive, nous allons devoir prendre une décision et signer.
Mais qu'est-ce que vous en pensez,
Isabelle Jobbasil? C'est étonnant sur cette période de référence qu'on choisisse 2021, puisque comme ça a été dit, la plupart des entreprises avaient des contrats à terme, ou des contrats ou d'un an ou de trois ans, et donc ils n'ont pas eu la répercussion de l'envolée des prix de l'énergie. Et donc de mettre sur 2021, oui, ça semble un petit peu étonnant qu'ils aient pas, compte tenu des propositions que vous avez, où vous avez une multiplication par 6, 7, 10, 15 du prix de l'énergie, ça soit pas justement ces propositions-là, enfin le fait que vous rentriez dans un contrat qui soit pris en compte.
C'est pour ça que je pense que le problème n'est absolument pas réglé. Donc non, tout ne va pas bien, Madame la Marquise.
Ça amène d'ailleurs à poser une question un petit peu plus large. Est-ce qu'on est dans la bonne direction en décidant de subventionner encore principalement la demande en 2023, puisque en brut, le bouclier tarifaire pour les particuliers, il pèse 45 milliards d'euros, et la somme mobilisée pour les entreprises est de 10 milliards d'euros. On fait exactement le contrat des Allemands. Et là, il y a peut-être une... Vous n'êtes pas d'accord, Christian Chavagneux?
Le chômage partiel, quand même, qui nous vient de l'Allemagne, c'était un gros soutien au pouvoir d'achat et à la demande.
Oui.
Donc, dire que les Allemands font de l'offre et nous, on fait de la demande...
En tout cas, dans les 200 milliards qui sont annoncés, qui seront d'ailleurs probablement pas intégralement dépensés...
Ce ne sera pas 200 milliards.
Oui, ce ne sera pas 200 milliards.
Vous savez ce que font les Allemands en ce moment à la Commission européenne? Ils disent que les entreprises françaises, depuis des années, bénéficient de l'AREN, c'est-à-dire de prix cassés de l'énergie, que c'est un avantage compétitif dingue pour les entreprises françaises.
C'est une anomalie, l'AREN.
Et qu'ils essayent de casser à Bruxelles et que Bercy, quel que soit le ministre, passe son temps à défendre. Donc, il n'y aura pas 200 milliards et les Allemands sont en train de nous attaquer en disant que les Français ont un avantage compétitif. Et le ministre qui s'exprimait sur Inter samedi avait l'air de dire que les 3% plus votre facture, votre contrat, suffit de télécharger votre contrat sur la DGFiP, sur impots.gouv.fr, pour recevoir pratiquement automatiquement l'aide. Donc il faudra quand même vérifier cette histoire de 2021-2022.
Écoutez, je peux vous dire que je l'ai vérifié pas plus tard qu'hier avec un représentant du gouvernement local. Donc je pense que je ne citerai pas, donc on ne peut pas mieux faire.
Et votre fournisseur d'énergie, qui c'est?
C'est Total Energy.
D'accord, juste pour savoir...
De toute façon, il n'y en a pas 50. Hein.
Oui, non.
Vous avez... Voilà,
ce qui était, non, mais... frappant, c'est de voir que cette année, pour la première fois, vous l'avez reçu en recommandé.
Oui, mais...
c'est quand même... Voilà, elle est un peu spéciale, elle est un peu salée, donc on va l'envoyer en recommandé.
C'est ça qui est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'avant même de l'ouvrir... Je me suis douté du contenu.
Bah oui, forcément, ça ne pouvait pas être un contenu sympathique.
Il
n'y
avait pas besoin de sortir de la chaussée.
Quand même,
Non, je voulais revenir. Pour moi, c'est un faux débat, cette histoire.
Quoi, d'offres demande?
Oui.
Pourquoi c'est un faux débat?
Mais parce que...
Regardez, à chaque choc depuis le premier choc pétrolier...
Je pense que c'est la bonne articulation qu'il faut avoir entre l'offre et la demande. Parce que quoi qu'il en soit, si vous faites des choses pour les entreprises, mais qu'il n'y a pas de demande... Ça va être une problématique aussi.
C'est une histoire d'œuf et de poule.
Voilà, oui, exactement. Donc, lorsque vous êtes face à un choc où aujourd'hui on se répartit une facture, on se répartit des pertes, donc on essaye de faire au mieux entre les entreprises, les ménages, mais c'est la bonne articulation entre les deux, puisque un défaut de demande se répercute sur les entreprises, et si les entreprises vont mal, bah, c'est plus de chômage, c'est moins d'activité, etc., et ça se répercute également sur la demande.
Oui, donc, Isabelle, mais quand la demande est artificiellement soutenue, ça augmente la consommation de produits importés, ça a un effet inflationniste.
Oui, non, mais regardez, les entreprises françaises ont un taux d'investissement absolument incroyable. Les entreprises françaises continuent à embaucher. Même l'OFCE, qui sont des spécialistes de l'emploi, ne comprennent pas comment il y a autant de niveaux d'emploi.
Oui.
Donc, quelque part, c'est bien parce que si vous vous dites que le pouvoir d'achat des gens est préservé,
ça vaut le coup d'investir.
Ça vaut le coup de se dire, je garde les gens, je les vire pas, voire j'en embauche. Donc, il y a quand même une relation, je suis d'accord avec Isabelle, il y a quand même une relation entre l'offre et la demande. C'est quand même basique en économie. Il y a pas, on soutient la demande et puis ça n'a pas d'effet sur l'offre, on soutient l'offre.
Elle va la chercher à l'extérieur.
Oui, non, mais je suis d'accord. Plus, ça, d'accord.
Enfin, voilà, c'était.
Plus quand même, Gérard.
Mais on a quand même pendant des années demandé aux Allemands de travailler un peu sur la relance de la demande, et vous êtes d'accord avec moi, ça n'a pas été le cas pendant bien longtemps.
Ça aurait fait du bien, ça c'est sûr. Mais le chômage partiel, c'est quand même une aide beaucoup en Allemagne, c'est une aide à l'Allemande, c'est une aide à l'emploi, c'est une aide au pouvoir d'achat.
À la fois sur les deux, quoi. Sur les entreprises.
Rappelons quand même que d'après les chiffres de Gérald Darmanin, il y a 140 milliards d'aides aux entreprises tous les ans. Il y a eu un calcul qui a été fait par l'IRES qui met ça à 157 milliards, 157.
C'est le chiffre, effectivement, oui.
Donc, on est autour de 4 points de PIB d'aide en permanence aux entreprises. Il y a plus de 2000 guichets. Et évidemment, je pense que quand on est un chef d'entreprise, il faut avoir quelqu'un qui vous aide, parce qu'il y a plus de 2000 guichets d'aide pour un total de plus de 4 points de PIB en permanence, en dehors de toute période de crise. C'était pratiquement rien à la fin des 70, on est à 4,5 points de PIB aujourd'hui.
C'est principalement les allègements de cotisations.
Il n'y a pas que ça.
Les poids lourds, ce sont les allègements de cotisations, notamment sur les plus bas salaires. Ça a été le CICE. Bon,
ça a été le CICE. Il y a plein de choses. Vous avez une liste comme ça. D'ailleurs, c'est amusant, entre guillemets, pardon de l'expression, mais ça fait quand même des années que les chefs d'entreprise nous disent que le seul souci important en France, c'est le coût du travail. Tout d'un coup, on s'aperçoit en Allemagne, on s'aperçoit en France que le coût de l'énergie, c'est quelque chose aussi, que la dépendance à l'énergie et à vos fournisseurs, c'est quelque chose d'important aussi, que tout d'un coup, les prix de l'énergie, quand ça se met à secouer dans tous les sens, il faudrait peut-être avoir des marchés un peu mieux régulés. J'espère que Laurent et tous les autres chefs d'entreprise vont se dire, ok, on a peut-être un travail à faire sur le coût du travail, mais sur les coûts de l'énergie, il y a des choses à faire aussi.
Non, on n'a jamais autant tenté la régulation sur les coûts de l'énergie, puisque quasiment tous les pays, et même jusqu'à Bruxelles, on veut plafonner.
Oui, et sauf que pour l'instant, il n'y a rien.
Mais oui,
mais vous savez pourquoi il n'y a rien? Parce que les Allemands.
Parce que c'est l'Europe.
Mais parce qu'on sait très bien que la solution.
Isabelle Jobbes.
Non, mais la solution, elle est au niveau européen. ça sera pas, enfin, quel que soit le niveau d'aide qu'on va consentir, etc., finalement, ce qu'on doit faire, c'est de voir comment on baisse le prix d'accès à l'énergie, que ce soit le gaz, l'électricité, donc de voir comment on peut aussi déconnecter le prix du gaz de l'électricité. Et ça, c'est des décisions au niveau européen, avec effectivement la nécessité d'avoir une solidarité à cette échelle.
Ça s'appelle l'exception ibérique, en quelque sorte. Mais là, il y a des entreprises
qui... Le marché était pas, enfin, l'Espagne n'est pas connectée au reste du marché. Ce qui avait expliqué qu'il y avait eu la possibilité de les déconnecter du système sur lequel ils ne sont pas de toute façon connectés.
Sauf qu'il y a plein de PME qui se demandent si elles ne vont pas aller vivre en Espagne ou au Portugal en ce moment. Ça. À cause de ça.
Non, mais c'est pour ça qu'il faudrait qu'au niveau, ça soit une décision au niveau européen qui permette ou plafonner ou trouver des mécanismes.
Passer au coût moyen plutôt qu'au coût marginal déjà.
Oui, ou au
coût marginal. Mais le coût marginal dans un monde qui fonctionne, ça fonctionne très bien.
Mais
en
oui,
fait.
Bah, de toute façon, c'est le monde est complètement bousillé. C'est le principe d'une économie de marché.
Oui, Laurent Vronsky. C'est un peu la question qu'on posait hier. Est-ce que le bouclier tarifaire a été un bon choix politique? Oui, répond l'Institut des politiques publiques et le CEPREMAP de l'École d'économie de Paris dans une note de la semaine dernière.
Mais moi, je voudrais répondre à.
Sur les aides, les 140 milliards.
Je voudrais répondre à Christian sur deux choses. D'abord, je ne suis pas en train de réclamer l'ouverture du énième guichet d'aide et je suis contre les aides. Et s'il n'en tenait qu'à moi. Je ne veux pas dire moi président, hein, paraphraser quelqu'un, mais sinon, tenez qu'à moi, on les supprime toutes. Mais attention, on fait aussi pareil sur la fiscalité, c'est-à-dire qu'on enlève toutes les taxes imbéciles, la CVAE, les impôts de production, etc. Mais je suis contre les aides. Et pourquoi je suis contre les aides? Pour une raison très simple, c'est que ça crée une relation malsaine entre celui qui les donne et celui qui les reçoit. Et ça crée, si vous voulez, une forme d'accoutumance cocaïnomane. Donc je suis contre les aides et je ne suis pas en train de réclamer une énième aide. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, sur l'histoire des coûts d'énergie. Alors, je suis désolé, Christian, mais j'ai pas attendu 2022 pour m'en soucier. Pour une raison extrêmement simple, c'est que nous, si vous voulez, nos produits utilisent massivement de l'énergie. Donc, on est parfaitement conscient de ça. Simplement, en tant que chef d'entreprise, on s'intéresse sur ce qui est à la une du téléscripteur à l'instant T. Donc, il se trouve que le coût du travail a été pendant des décennies un vrai problème. La flexibilité du monde du travail a été un vrai problème. Aujourd'hui, on a un problème qui est inconnu. En 35 ans de carrière, je n'ai jamais connu des coûts multipliés par 50 en si peu de temps. Jamais. Mais comme il y a 2 ans et demi, je n'avais jamais vécu de pandémie, comme tout le monde, et j'ai dû mettre en œuvre des tas de choses. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je ne pense pas que c'est un problème de préscience. Mais aujourd'hui, les événements se succèdent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai parallèle entre la météo que nous connaissons tous et la météo économique. Depuis 3 ans, regardez le nombre de crises. On a une crise sanitaire, une crise des matières premières, on a une reprise de l'inflation, ça fait 3, et maintenant on a une crise énergétique. Tout ça en même pas 3 ans. Donc on s'adapte. Donc je pense simplement que le système, et je ne suis pas le spécialiste, mais le système aujourd'hui de la production électrique en Europe, je veux dire, est un système qui est extrêmement compliqué avec des indexations. Alors il y a toujours des bonnes raisons à tout, mais alors le gaz et l'électricité sont liés. Alors soit on a un système qui est complètement étatique, avec un monopole, soit on a un système qui est complètement libre. Mais souvent, ma modeste expérience, c'est que les systèmes hybrides fonctionnent bien à l'instant T et ne fonctionnent pas quand les conditions changent. Et enfin, j'en terminerai. Pour moi, ce qui se passe actuellement avec les coûts de l'énergie, je veux dire, l'Europe a fait un choix politique vis-à-vis de la guerre en Ukraine. C'est pas à moi de juger si oui ou non c'était le bon choix. Mais donc, c'est une décision au niveau européen, et donc elle a créé un choc énergétique au niveau de l'Europe. Il n'y a pas de problème énergétique en Amérique du Nord, et il n'y a pas de problème énergétique en Asie.
C'est ça le vrai problème.
C'est un choc de compétitivité majeur.
Quand on parle entre nous de distorsion de concurrence entre l'Allemagne et la France, excusez-moi, mais on se trompe de débat. Oui. Moi, aujourd'hui, mon problème principal, il est avec les Américains et la loi IRA, qui est la loi la plus protectionniste depuis les années 30, et avec ce qui va se passer en Asie. Il est là le problème.
Entièrement d'accord.
Et c'est pour ça qu'on devrait faire front et bloc au niveau européen.
Et donc, la question que l'Europe doit se poser, c'est comment je protège mon tissu industriel. Exactement. Tout en assumant mes décisions politiques. Oui. Et là, que les États européens se réunissent et trouvent un moyen de sauver leur patrimoine économique, ça me paraît tout à fait légitime. Mais ouvrir un énième guichet d'aide pour la énième aide auquel généralement personne ne comprend rien la première fois qu'elle est pondue, je suis contre.
Sauf que les entreprises chinoises, les entreprises américaines, elles vont aller au guichet et largement. Donc vous pouvez refuser les aides, mais attention.
Je ne suis pas complètement stupide. Si les aides existent aujourd'hui,
on les prend
seulement. Je pense qu'il faut revoir le logiciel complètement.
Non, mais et c'est certain. Enfin, moi, je pense qu'on s'inflige hein, depuis des mois. On a fait un choix politique, mais on s'inflige. Attendez,
la Russie a fait un choix politique. Oui, c'est non, pas les Européens qui ont fait un choix politique d'aller à la guerre. Non, c'est les Russes qui nous imposent ça.
Vous avez raison, Christian.
Non, la Commission européenne,
bien sûr.
On est d'accord.
Mais dans ces cas-là, il faut s'y préparer.
Assumer derrière de se dire. On a du coup un choc de compétitivité majeur et je suis d'accord que c'est l'Europe qui doit faire bloc vis-à-vis des États-Unis et de l'Asie.
Et donc trouvons
des solutions.
C'est ça le problème.
Et voilà, trouvons des solutions au niveau européen. On s'inflige une douleur qu'on pourrait éviter en prenant les bonnes décisions.
L'Élysée a fait fuiter le fait que Emmanuel Macron avait proposé à M. Scholz d'aller tous les deux voir Xi Jinping en Chine. Et vous avez vu le résultat. Scholz y était tout seul avec ses chefs d'entreprise. D'un côté, pour la Chine, en disant c'est des marchés, pas pour l'Europe ou le franco-allemand, des marchés pour moi. Et alors que la dépendance du gaz russe, quand même, montre à l'Allemagne, devrait monter aux dirigeants allemands, aux dirigeants économiques et politiques. Il y a quand même un problème. Que fait M. Scholz? Il court après l'Algérie, il court après le Sénégal, maintenant, qui a des grosses réserves de gaz, pour déplacer sa dépendance au gaz russe à sa dépendance au gaz de plusieurs autres pays qui, dans la conjoncture géopolitique de demain, ne l'assurent pas plus d'avoir du gaz à bon prix et à bon marché et de manière régulière.
Chacun pour soi et du pour tous.
On aura un pouvoir de négociation que si on fait bloc.
Exactement.
Alors, on est un gros acheteur.
On va marquer
et là on l'a pas.